Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Bonjour Thierry Breton.
Bonjour.
Merci d'être mon invité ce matin. Vous êtes le commissaire européen qui s'occupe notamment de ces questions d'énergie. Et je voudrais qu'on puisse se lancer directement dans le vif du sujet, puisqu'on a aujourd'hui un plan de sobriété qui va être annoncé par le gouvernement français. Et on a un peu l'impression que chacun y va de son petit plan, de ses aides. Chaque pays prévoit des aides, des boucliers tarifaires. Un peu chacun de son côté. Que fait l'Europe ?
Non, au contraire. Je rappelle que le mix énergétique est évidemment dépendant des États. C'est eux qui sont maîtres de leur mix énergétique. Mais ce qui est très important, c'est que nous avons donné ce qu'on appelle dans notre jargon une boîte à outils, c'est-à-dire des recommandations qui fait que chaque État membre, s'il suit ces recommandations qui sont donc logées dans cette fameuse boîte à outils, eh bien, il y a une harmonisation. Alors, ça peut être effectivement de baisser la température à 19 degrés, ça peut être de prendre des précautions. Maintenant, elles sont obligatoires sur la gestion des pics d'électricité, baisser de 5%. Mais ça peut être évidemment toutes les mesures qui sont annoncées. Et au fond, elles sont quand même coordonnées d'État à État, en laissant la liberté malgré tout, en fonction évidemment des situations locales, eh bien, d'avoir un peu de marge de manœuvre.
Donc, le mode d'emploi qu'on aura, nous, tout à l'heure, français, en réalité, vous qui dézoomez depuis Bruxelles, vous nous dites ce sera à peu près partout pareil. C'est-à-dire tous les Européens vont se retrouver à devoir mettre le chauffage à 19 et la chambre à 17.
Il est parfaitement harmonisé. Et encore une fois, chacun peut l'adapter en fonction de ses propres besoins. Mais il est parfaitement harmonisé, oui.
Avec cette question quand même aussi des aides. C'est-à-dire qu'il y a ce bouclier tarifaire dont je parlais à l'instant. Mais quand on apprend un peu en surprise, semble-t-il, enfin j'espère que vous étiez au courant, vous, que l'Allemagne a dégainé 200 milliards d'euros un peu toute seule quand même dans son coin pour relancer l'économie allemande. Est-ce que ça ne crée pas en Europe une forme d'inquiétude sur une distorsion de concurrence, certains étant aidés plus que d'autres ?
Alors d'abord, il faut être très, très cohérent. Depuis plusieurs semaines, voire mois, j'appelle chacun des États à faire ce qu'il faut pour aider les secteurs industriels. On a beaucoup de secteurs industriels qui sont très dépendants de l'énergie. On peut penser à l'acier, on peut penser au zinc, on peut penser au papier, on peut penser à la chimie, on peut penser au verre, et donc qui sont très affectés. Et c'est très important parce que, évidemment, ça affaiblit notre compétitivité. Et au fond, certaines de ces entreprises vont peut-être être tentées d'aller produire non plus en Europe, mais ailleurs. Donc depuis des mois, nous alertons sur ce point les États membres. Ils réagissent, c'est bien. Mais il faut le faire, évidemment, et c'est votre point, de façon coordonnée. Car le marché intérieur, c'est ce dont je suis responsable, eh bien, il fonctionne parce que nous avons des règles à peu près similaires partout. Et donc, il est très important, encore une fois, d'abord, que les États fassent ce qu'ils doivent faire, et donc c'est bien que l'Allemagne le fasse comme d'autres. Mais ce qui est très important, c'est de le faire, évidemment, de façon coordonnée, en harmonie, et puis surtout, un point. Aucun État, aujourd'hui, n'a le premier euro vaillant faire face à cette crise. Tout le monde doit emprunter. L'Allemagne, la France, l'Italie, tout le monde doit emprunter. Mon point, et on a écrit une tribune du reste avec mon collègue Paolo Gentiloni, qui est le
commissaire. Dans les échos, hier, oui. Qui, lui, est en charge de l'économie, voilà. Et vous du marché intérieur. Donc, ensemble, vous avez dit, attention, lançons un emprunt global commun.
Alors, c'est pas exactement un emprunt, ce que nous avons dit très précisément, si vous permettez.
Allez-y, c'est le moment.
Il est très important que, puisque chaque État va devoir emprunter les sommes qu'ils jugent nécessaires pour aller en soutien précisément à la compétitivité de ces entreprises qui peuvent être défaillantes, il est très important que tous les États aient le même accès à l'endettement. Et pas que certains, parce que soi-disant ils auraient peut-être une situation fiscale meilleure que d'autres, puissent le faire avant les autres et dans des conditions qui créent de la distorsion sur le marché. On l'avait fait du reste, si vous vous en souvenez, à l'occasion de la crise du Covid, où on avait mis un plan, on avait appelé ça Shore, qui permettait à chaque État, encore une fois, d'emprunter. Il ne s'agit pas là de mutualiser des dettes. Chaque État va emprunter sur son propre budget, mais à des conditions qui sont égales, identiques partout, pour maintenir précisément ce marché intérieur et finalement ce qu'on appelle, en anglais c'est le level playing field, en français ça veut dire des situations équitables dans tout le marché.
Oui, alors en fait je vais quand même essayer de traduire pour ceux qui nous écoutent, parce que vous avez un langage très diplomatique et c'est votre rôle Thierry Breton, puisque vous êtes commissaire de tous les pays européens. Enfin, moi, ce que je comprends quand même dans vos mots, c'est que vous visez l'Allemagne, qui n'a pas joué le jeu.
L'Allemagne a annoncé un plan absolument gigantesque de 200 milliards, donc c'est ce qui a été annoncé. Donc évidemment, il faut maintenant discuter. D'abord, il faut vérifier évidemment que tout ceci est compatible avec les aides d'État, bien sûr. Donc on est en train d'y travailler avec ma collègue Maka de Vestager pour que précisément il y ait cette compatibilité. Et puis derrière, je le redis, il est très important, alors encore une fois, si l'Allemagne estime que c'est 200 milliards, très bien, mais dans ces conditions, il faut que tous les autres pays aient des conditions d'accès à l'emprunt pour faire face à leurs propres besoins identiques. Et c'est ce à quoi nous travaillons avec du reste la présidente de la Commission von der Leyen.
Vous le saviez? L'Allemagne, elle avait prévenu la présidente de la Commission? Elle avait prévenu qui que ce soit?
Mais l'Allemagne nous avait prévenu, évidemment, qu'elle était en train de travailler sur un plan. Après ça, elle a annoncé le montant.
Voilà, et le montant vous a quand même surpris, soyons honnêtes.
Le montant est très significatif, bien sûr. Oui.
Très significatif, alors tant mieux pour les Allemands, j'ai envie de dire. Mais le problème, c'est qu'effectivement, vous disiez, il ne faut pas que ça crée une distorsion de concurrence. Sous-entendu, ça menace quand même de créer une distorsion de concurrence.
Ça pose la question, et je le redis, de l'endettement équitable de chacun des pays. Voyez-vous, certains pays ont des situations de dette meilleures que d'autres. Mais certains pays, je pense en particulier, vous savez, on appelait les pays frugaux et les pays dits du Club Med, ceux qui avaient soi-disant des bons
les
budgets.
Les latins, en gros, alors, et,
je veux pas
et
dire,
les pays
je veux
du
pas
Nord.
Dire que les pays
les cigales
du
et
Sud
les fourmis
n'ont pas toujours bien géré, compris en France. Mais ce qui était important, c'est, si jamais on parle de ça, c'est que c'est bizarre, mais la plupart des pays frugaux, je ne jette pas la pierre à personne, c'est un constat, ont beaucoup moins investi dans la défense. Prenez par exemple le cas de l'Allemagne, ils investissaient 1% de leur PIB en défense, là où on demandait d'investir 2%. Ce que je veux dire, c'est que pour les pays frugaux, pour les pays frugaux, d'une façon générale, pas tous, mais la plupart, eh bien, il faut peut-être regarder ce qu'on a fait pour l'Europe et ce qu'on a peut-être moins fait, et recalibrer ça, encore une fois, pour justifier d'un accès identique pour chacun à l'endettement.
Mais il me semble que Olaf Scholz vous l'a dit, il ne veut pas soutenir cette initiative que vous proposez.
Non, c'est pas vrai. Non, je crois qu'il y a eu des réunions qui ont été positives, et je pense que là encore, tous les pays d'Europe ont bien conscience de ça. Du reste, la présidente de la Commission a écrit à chaque chef d'État et de gouvernement, et c'est l'une des pistes évidemment évoquées qui sera discutée ensemble, y compris demain à Prague.
Vous parliez, Thierry Breton, du fait qu'il y avait eu un précédent dans cet emprunt collectif, ou en tout cas où vous étiez mis tous les pays ensemble au moment du Covid. C'était à l'été 2020, 750 milliards d'euros dans ce plan, et la presse révèle qu'il n'y a que 113 milliards qui ont à ce jour été distribués. Ils sont où les autres?
Non, je crois que c'est.
Expliquez-nous bien ce qui se passe, parce que si c'est le cas, évidemment, on se dit à quoi bon emprunter à nouveau.
Il faut faire deux choses. D'abord, il y a ce plan qu'on appelle Next Generation EU, il est calibré sur plusieurs années. Et donc les États ensuite disposent de ces sommes. Donc il y a une partie qui est un peu moins de la moitié qui sont des dotations, et l'autre partie qui est un accès aux prêts. Et donc les États ont accès ensuite à ces sommes en fonction précisément du déroulement des projets. Donc on suit là normalement le déroulement des projets. On n'a pas donné les 750 milliards tout de suite. Par exemple, vous voyez, prenons le cas de l'Italie. L'Italie doit recevoir 196 milliards. Pour l'instant, ils en ont
touché très peu finalement.
Pas très peu, non, quand même une soixantaine de milliards, c'est quand même pas très peu. Mais donc, Madame Meloni, si elle veut continuer à toucher le reliquat, et c'est pas rien, c'est plus de 100 milliards, eh bien, elle va devoir évidemment faire en sorte que l'Italie continue sur les projets et les progrès sur lesquels elle s'est engagée.
C'est une menace?
Non, c'est uniquement un constat. C'est pour vous dire que l'Europe avance, quel que soit du reste les gouvernements qui se succèdent.
C'est important de le dire, puisque vous mentionnez à l'instant Giorgia Meloni. Il y a eu cette fameuse phrase de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui juste avant, à la veille pratiquement des élections en Italie, avait laissé entendre que si les Italiens faisaient des mauvais choix, choisissaient un gouvernement qui n'était pas forcément pro-Union européenne, alors elle avait des outils pour sanctionner. Vous avez regretté cette phrase?
Alors, ce n'est pas ce que j'ai entendu. Je sais que ça a été commenté ou interprété de cette façon, mais moi, ce n'est pas ce que j'ai entendu. Ce que j'ai entendu, c'est ce que je viens de vous dire. Les États membres sont évidemment libres, et c'est normal, nous sommes en démocratie, une très grande démocratie, on est la plus grande démocratie du monde libre, les 27. Eh bien, les États choisissent évidemment, et le peuple, qu'ils veulent. Derrière, effectivement, il y a les engagements européens, et ces engagements européens, je dirais qu'ils engagent évidemment les États, souvent bien au-delà du reste des élections. On vient d'en parler du reste pour l'Italie sur le plan Next Generation EU et les 196 milliards attendus. Donc, tout simplement, ce qui est important...
On ne laissera pas tomber les Italiens.
Bien entendu qu'on ne les laissera pas tomber, mais l'engagement, il a été pris précisément pour recevoir ces sommes, de continuer à avancer sur les investissements qui ont été fléchés et sur les réformes qui sont associées. C'est ça ce qu'a voulu dire la présidente.
Thierry Breton, vous parliez à l'instant aussi de l'engagement et de l'investissement dans l'effet de défense. Et en effet, on le sait, sur toutes les dernières années et bien avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, la France investissait bien plus dans son armée que ne
ne le faisait l'Allemagne. C'était aussi historique, évidemment dû à l'histoire de l'Allemagne. Est-ce qu'aujourd'hui vous considérez que dans l'aide, par exemple, qui est vis-à-vis de l'Ukraine, l'aide de l'armée française, l'Allemagne, au fond, ben c'est aussi une manière, il devrait remercier la France de cette solidarité. La solidarité n'est pas exactement la même selon les différents pays. Est-ce que ça doit être pris en compte aussi dans la question de l'harmonisation ?
Non, mais vous avez raison de poser la question comme ça, si je peux me permettre. Parce que d'abord,
tu mets un peu les pieds dans le plat, mais
non, mais d'abord, il ne s'agit pas de remercier. Il s'agit, vous savez, le projet européen, c'est un projet de solidarité. Et c'est un projet aussi d'équité. On est face à une nouvelle crise. Une crise qui est difficile. Nos compatriotes se rendent compte tous les jours. Et elle va durer. Et donc, pour affronter cette crise, on l'a appris, notamment dans la gestion, qui a été une gestion, je trouve, bien coordonnée, finalement, avec cette tragédie qui a été le Covid, avec un certain succès pour s'en sortir ensemble. On a appris que le maître mot, c'est la solidarité, et c'est évidemment l'équité. Donc, il ne s'agit pas, encore une fois, de se diviser, il ne s'agit pas de se séparer. On peut se comparer, mais ce qui est important, c'est que lorsque, et pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'Allemagne et d'autres, si un pays a plus de capacité d'emprunter plus vite que les autres, il faut peut-être réactualiser ça et le voir effectivement à l'aune de ce que chacun a fait pour l'Europe. C'est vrai que certains ont dépensé beaucoup plus. Prenez le cas de la Grèce, par exemple. La Grèce est un pays qui a souvent été montré du doigt, on le sait, hein, hélas. La Grèce est l'un des pays qui dépense le plus pour sa défense parce que la Grèce est chargée de protéger le flanc septentrional de l'Europe. Et en particulier, on le sait, avec un voisin tumultueux qui est la Turquie. Donc la Grèce investit beaucoup en défense. Et ben la Grèce dépense.
Donc faut pas être ingrat.
Il faut tout mettre sur la table. Et dire voilà ce que les uns et ce que les autres apportent pour notre projet commun.
Avec une question quand même qui est revenue depuis le début de la guerre en Ukraine, est-ce qu'il faudrait une armée européenne ? Est-ce que vous y seriez favorable ?
Bien sûr qu'il faut absolument avoir une défense européenne, et c'est vraiment ce sur quoi nous travaillons d'arrache-pied. On a fait des progrès immenses, et notamment avec le Fonds européen de défense. Désormais, on investit en amont pour la recherche et développement en matière militaire. Donc c'est quelque chose qui est de plus en plus coordonné. Maintenant, évidemment, les armées, elles sont aujourd'hui nationales, mais on commence à avoir une armée qui est une armée qui protège nos frontières, c'est Frontex. On va avoir 10 000 hommes en armes qui va protéger nos frontières sous brassard européen. On travaille désormais à une armée cyber, avec des spécialistes cyber, donc des officiers de cybersécurité, là encore, sous bannière européenne. Donc progressivement, effectivement, on avance. Il faut le faire évidemment en harmonie. Donc c'est pour ça qu'il faut garder évidemment les spécificités des uns et des autres. Mais il y a beaucoup de domaines dans lesquels, dans l'espace tout court, dans l'espace cyber, et également dans l'espace maritime, on va devoir faire de plus en plus, et c'est vraiment un objectif.
Thierry Breton, l'Ukraine demande en urgence à rentrer dans l'OTAN. Est-ce que vous dites, tiens, ça c'est aussi une solution, ou est-ce que vous êtes inquiète ça ?
Alors c'est un message évidemment qui est en réaction à ce qui s'est passé sur la place Rouge à Moscou.
Avec l'annexion officielle, la reconnaissance de référendum fantoche.
Voilà, donc ces référendums fantoches qui ont donné le prétexte de l'annexion désormais de ces territoires soi-disant donc à la Russie. Vous savez qu'on ne reconnaît absolument pas ça. Et en réaction politique évidemment, le président Zelensky a demandé donc son adhésion à l'OTAN. Mais vous savez, comme nos auditeurs, que pour demander l'adhésion à l'OTAN, il faut ne pas être en guerre. L'Ukraine est hélas un pays en guerre. Donc c'est disons que c'est une démarche politique. Elle ne pourrait être instruite évidemment que si paix il y avait, et malheureusement on n'en voit pas encore.
Ce n'est donc à ce stade que symbolique,
c'est
une demande qui ne peut être faite.
Elle ne peut pas être instruite,
puisqu'en temps de paix,
il faut de quoi l'article 5 s'appliquerait immédiatement et l'OTAN rentrerait en guerre.
En fait, j'explique bien pour que ceux qui nous écoutent et qui nous regardent le comprennent. Si l'Ukraine entrait dans l'OTAN, alors nous tous nous rentrerions en guerre puisque un membre de l'OTAN en guerre, tous les autres sont solidaires.
Absolument, donc c'est pour ça que les adhésions se font que lorsque les pays sont en paix.
Il y a un huitième train de sanctions contre la Russie qui a été ratifié hier au niveau européen. Il y aura quoi dedans ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
D'abord, trois grands niveaux. D'abord, évidemment, c'est la réaction évidemment à ces pseudo-annexions des quatre républiques ukrainiennes, donc on le sait, que nous ne reconnaissons pas. Donc il y a d'abord une liste de personnes et d'individus qui ont contribué à cette démarche qui est absolument non reconnue, et je le dis avec mes mots tragique parce que ça n'a aucun sens. Donc ces personnes sont sanctionnées, donc elles sont sur la liste. Et puis il y a un deuxième
1300 personnes, voilà, c'est le chiffre qu'évoque la première ministre.
C'est 1300 ça. Il y a ensuite un deuxième volet, donc qui concerne le découplage, l'accélération du découplage, donc avec la Russie. Je le dis, qui est très important.
Ça veut dire quoi ça?
Le découplage, ça veut dire que toutes les dépendances qui nous restent avec la Russie sont utilisées, on le sait, contre nous. On l'a vu évidemment avec les hydrocarbures, on le voit avec le gaz, en particulier, mais pas que. Et donc dès que il y a une dépendance, par exemple, on importe trop de pâte à papier, on importe des minerais, on importe, etc. Vladimir Poutine s'en sert comme arme de chantage.
Donc en fait, il faut, donc, en gros, ce que vous appelez découplage, c'est ne plus être dépendant de la Russie. Quoi.
Voilà, donc là, il y en a encore pour 7 milliards d'euros de moins pour la Russie par an. Et puis ensuite, le troisième volet concerne un sujet qui est très important, c'est la réduction absolue des transferts de technologie en Russie, et en particulier des transferts de technologie critique. On le sait aujourd'hui, la Russie a quasiment épuisé ses stocks de missiles de croisière. Et pour faire ces missiles de croisière, bien, il faut des composants électroniques qu'on ne trouve qu'à l'Ouest. Et évidemment, il est hors de question que la Russie puisse se les procurer.
Huitième train de sanctions. Pourtant, la guerre, en effet, continue. Et certains critiquent ces sanctions comme étant contre-productives. Je voudrais que vous écoutiez ce que disait Marine Le Pen ici même. C'était mardi.
Elles ne fonctionnent pas et même elles sont contre-productives. La réalité, c'est que grâce à ces sanctions, la Russie a fait 40 milliards de bénéfices de plus sur l'exportation de son pétrole. Non seulement ça ne fonctionne pas, mais de surcroît, ça sanctionne les Français. Nous allons avoir un hiver difficile et peut-être l'hiver prochain encore plus difficile que celui-ci. Et ce sera de la responsabilité de ceux qui ont pris des décisions qui étaient des décisions non réfléchies.
Je suis toujours embarrassé en tant que commissaire européen de répondre à une personnalité politique nationale. Mais je voudrais juste corriger, peut-être, si vous le permettez, une petite erreur que répète de reste souvent Marine Le Pen. Non, Madame Le Pen, les sanctions n'ont pas enrichi la Russie. La Russie, à l'heure où elle parle, elle dit 40 milliards supplémentaires sur le pétrole. Le pétrole n'est pas encore sanctionné, il sera sanctionné début décembre. Donc pour l'instant, c'est faux. C'est comme lorsqu'elle dit les sanctions sur le gaz profitent à la Russie. Le gaz russe n'est pas sanctionné. Donc il faut juste être précis quand on parle.
Mais quand même, cette question, c'est pas seulement pour le coup une question de sanctions, c'est aussi une question d'offre et de la demande. La Russie n'a jamais vendu son pétrole et son gaz aussi cher.
Mais encore une fois, c'est parce que l'ensemble, ça avait démarré
avant. Mais ça n'a rien à voir avec les sanctions, voilà ce que vous nous dites ce matin.
Mais je dis tout simplement que contrairement à ce qu'elle dit, le gaz n'est pas sanctionné. On continue à importer du gaz de Russie. Et notamment, les pays comme la Hongrie, comme la Slovaquie, comme la Tchéquie, comme la Slovénie, dépendent aujourd'hui encore, importent encore du gaz russe. Non, Madame Le Pen, le gaz n'est pas sanctionné. Non, Madame Le Pen, ce n'est pas parce que, comme elle le dit, pétrole est sanctionné, comme elle dit, que la Russie fait 40 milliards de plus, puisque l'application ne va être qu'en décembre. Donc, vous voyez, il faut juste être précis, c'est tout. Et je le dis, il ne s'agit pas là pour nous de sanctions, il s'agit de découplage. Le découplage, c'est éviter de dépendre de Vladimir Poutine, car on sait qu'il utilise ça comme des armes hybrides. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que l'ensemble des éléments qui sont soumis sous sanctions, comme par exemple le fait de ne plus pouvoir avoir des pièces détachées pour faire voler les avions, il y a la moitié de la flotte civile qui est à l'arrêt. Hélas pour les Russes, parce qu'encore une fois, on ne souhaite pas ça.
Pour la population russe.
Bien sûr, hélas. Donc, qu'elle aille voir ce qui se passe, notamment dans les transports en mobilité, elle verra ce qui se passe. Et encore une fois, on ne s'en réjouit pas. Ce que l'on souhaite, c'est que le peuple russe puisse convaincre, évidemment, Vladimir Poutine qu'il faut arrêter cette guerre injuste.
Thierry Breton, la Russie demande à être associée aux investigations sur le sabotage des gazoducs Nord Stream. La guerre, elle n'est pas uniquement dans les prix, elle est aussi sur le terrain avec ce sabotage. Est-ce que vous trouvez légitime que la Russie demande à être associée à cette enquête internationale?
C'est un peu, effectivement, c'est un peu baroque. Hein, il faut appeler les choses comme elles sont. Alors maintenant, on va voir selon quelle autorité ceci est conduit. Ce qui est très important, c'est effectivement qu'il y ait une enquête. Moi, personnellement, j'aurais beaucoup plus confiance que cette enquête soit menée par des spécialistes européens ou américains. que par les Russes. Et vous comprenez pourquoi.
Thierry Breton, est-ce qu'il faudrait accueillir les déserteurs russes?
Alors, là encore une fois, les États membres délivrent ou non les visas, qui sont des visas de touristes pour la plupart d'entre eux, à ceux qui viennent, pas que. Il faut, la politique que nous avons mise en place, et c'est qu'il faut être très sélectif. Il faut être très sélectif. Il y avait un accord auparavant où on accueillait vraiment l'ensemble de la population russe pour venir faire du tourisme en Europe. On est de façon très équilibrée, mais aussi facilitée. C'est derrière nous. Maintenant, c'est au cas par cas. Donc, on incite, là encore, les États membres à le faire, bien sûr, si c'est nécessaire. Il peut y avoir des regroupements familiaux, il peut y avoir des dissidents. Sur les déserteurs, il faut regarder de façon très attentive et au cas par cas.
Et vous regarderez donc au cas par cas. Thierry Breton, vous êtes commissaire au marché intérieur. Merci d'être venu préciser, et on l'a bien compris, notamment votre appel à une solidarité importante sur les aides aux États, les aides sur les questions notamment énergétiques. Merci à vous. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.